Manger la meilleure part et je suis convaincue que, excusez, allons-y. Je suis convaincue qu'à Noël, c'est clair que tu as déjà pris le temps d'analyser vraiment sérieusement les différentes parts de bûches de Noël pour savoir laquelle tu allais choisir, hein? Est-ce que c'est celle avec le plus de crémage ou la plus grande? Ça dépend des goûts, ça dépend des gens. Ou avec ta lasagne, hein, tu sais, le bon coin grillé, là, bien grillé, ou celle avec le plus de fromage. Ça dépend encore une fois des préférences. Et moi, il y a un phénomène que je trouve vraiment extraordinaire et ça me fascine. Le phénomène du bol de chips. Okay, le phénomène du bol de chips, c'est quand deux personnes en même temps sélectionnent la même chip, la même croustille. Tu sais, il voyait quelque chose de vraiment sublime dans cette croustille. Et là, il y en a un des deux qui va falloir qu'il dise, ah oh non, c'est bon, je te laisse. Tu sais, mais c'est n'importe quoi. Laissez-moi pas tout seul ici. Avouez que ça vous est déjà arrivé. C'est un peu ridicule. Mais pourquoi? Parce qu'on a tous envie d'avoir la meilleure part. La meilleure part. Choisir la meilleure part. Et ce soir, je veux te présenter l'histoire d'une femme qui a choisi justement la meilleure part. C'est un petit récit qui se déroule dans le contexte de la préparation d'un repas. Alors que Jésus et ses disciples sont invités dans une maison et ils s'apprêtent probablement, ça a l'air qu'ils s'apprêtent à manger finalement. C'est dans Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Mon premier point ce soir, c'est que la meilleure part, c'est manger avec la personne de Jésus. Et c'est la part que Marie a choisie. Et peut-être que pour nous, cette histoire-là, elle paraît pas très surprenante, mais je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'à l'époque, l'attitude de Jésus est vraiment hors norme sociale et culturelle. Dans ces temps-là, l'hospitalité, c'était une pratique qui était très courante et vraiment importante aussi. Ça faisait partie des coutumes et c'était normal qu'une femme s'occupe des différentes tâches associées au repas et au service. C'est pour ça que Marthe est tellement frustrée par rapport à sa sœur qui a l'air de rien faire aux pieds de Jésus et qui vient pas l'aider. Ça explique aussi son attitude vraiment très assumée et très sûre d'elle. Elle va même donner un ordre à Jésus. Oh, moi, j'aimerais pas être à sa place. Elle va dire, dis-lui donc de venir m'aider, quand même. Et de son côté, la position à Marie au pied de Jésus est pas anodine. On lit dans Actes 22, 3 que Paul a été instruit au pied de Gamaliel. Okay? C'était la position des disciples qui s'instruisaient auprès de leur rabbin à l'époque. Marie, elle s'est positionnée comme une disciple au pied de son maître, alors que les femmes n'étaient pas autorisées à étudier. Culturellement, OK, la personne qui a tort ici, en fait, c'est Marie, qui devrait respecter le rôle des femmes de l'époque. Mais Jésus ici renverse toutes les conventions. Il dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Jésus veut dire à quelqu'un ce soir que quel que soit ton passé, quel que soit ton statut social ou économique, quels que soient tes défis, Jésus t'invite à manger avec lui. Il t'invite à sa table. Il t'invite à passer du temps à ses pieds. Et à l'écran, on va voir ici, si vous voulez regarder l'écran, vous allez voir un cadran avec quatre différentes personnalités. Selon quatre traits, quatre caractères qui sont opposés, quatre traits de caractère. Pour savoir où tu te situes, en fait, tu dois te poser deux questions. Premièrement, est-ce que tu es plutôt extraverti ou introverti? Un extraverti va se ressourcer vraiment avec les gens, en voyant des gens, peut avoir de la difficulté à se retrouver seul, etc. C'est plus ennuyant. L'introverti va ressourcer, recharger ses batteries en se retrouvant plus seul. Et deuxième question, est-ce que tu es plutôt axé sur la tâche ou est-ce que tu es plutôt axé sur la personne? un métier qui serait plutôt axé sur les tâches, peut-être un métier plus intellectuel ou un métier manuel finalement. Et sinon, si c'est axé sur la personne, on pense à l'éducation, on pense aux soins finalement, soins infirmiers par exemple, etc. Donc, je te laisse 10 secondes. Pense à toi, où est-ce que tu te situes? C'est toujours le fun, un petit peu. Qui est 10, 5, 3, petite introspection. Est-ce qu'on a des inspirants dans la place? Lève ta main si t'es un i. Pas de i! Ben, coudonc, mais moi, j'en avais dans ma tête des i, là, mais bon, vous reconnaissez pas. Est-ce qu'il y a des s? Un peu? Ouais, OK. Ah, ouais, OK. Wow! On est une gang d'introvertis. Des c. Donc, C, introverti sur la tâche quand même. Et finalement, des D, donc des personnes d'action. Il y en a qui sont comme plusieurs en même temps, mais je comprends, moi aussi, je suis plus CS, là, entre les deux, un peu plus vers le C. Voilà. Fait qu'on a quand même pas mal d'introvertis dans la pièce. On se comprend. Et puis, Marie et Marthe, vous allez voir, par ces petits versets, on est capable de voir qu'elles sont opposées. C'est fou. Si on regarde à ça, Marthe est plutôt extravertie et axée sur les tâches, alors que Marie, elle, semble plutôt introvertie et axée sur la personne. Et Jésus ici va pas rabrouer Marthe, même en plus si elle avait une attitude un peu comme arrogante à la limite, elle va pas rabrouer Marthe pour sa personnalité parce qu'on a chacun été créé d'une façon unique. Mais en favorisant Marie, Jésus enseigne une réalité spirituelle importante. Dans le royaume de Dieu, la seule chose qui est nécessaire, c'est la personne de Jésus. La meilleure part, c'est manger avec la personne de Jésus et être en sa présence. Pourquoi? Parce que le message de Noël et le message de l'Évangile, c'est pas une religion, c'est une relation. Et ça paraît un peu quiétaine de dire ça, c'est une phrase qu'on entend, que si tu es chrétien depuis longtemps, tu as déjà entendu cette phrase-là, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est pas une religion, c'est une relation. Et pour te le prouver, on va lire un petit passage par rapport à la naissance de Jésus dans Matthieu 1, 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit: Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Joseph pensait qu'elle avait commis l'adultère. C'est pour ça qu'il voulait quitter finalement Marie. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est ce que ça veut dire, sauveur. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Quand je lis ce passage-là, une des choses qui me frappe, c'est la contradiction. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est l'ange qui demande cela. Et là, tout de suite après, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Jésus. Non, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. OK, il s'appelle Jésus ou Emmanuel. Matthieu vient de dire que la prophétie est accomplie, mais il s'appelle Jésus, c'est son prénom. C'est un peu contradictoire, mais en fait, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est pas le nom de Jésus, c'est ce qu'il est. C'est son identité, c'est l'identité du Fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu avec nous. Noël, le message de l'Évangile, c'est pas une religion où tu dois faire des choses pour essayer d'être tellement bon que Dieu va poser ton regard sur toi. Non, c'est une relation avec Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Est-ce que tu es centré sur la tâche plutôt que sur la personne de Jésus? Tu te demandes peut-être comment faire pour que Dieu t'écoute, quelles bonnes actions tu dois accomplir pour rencontrer Dieu, pour être digne de Dieu. La réponse, c'est rien. Rien. Il n'y a rien que tu peux préparer d'assez bien pour être digne de rencontrer le Dieu de l'univers. Et c'est ça, la beauté et la grâce de Noël, c'est que Jésus vient à nous. Il vit une vie parfaite à notre place. C'est le cœur de l'Évangile. Et attention, ça ne veut pas dire qu'en tant que chrétien, tu es appelé à ne rien faire. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et non par les œuvres, parce qu'on ne pourra jamais en accomplir de si bonnes pour s'approcher de lui. Mais nous sommes sauvés pour des œuvres. Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le salut en Jésus-Christ, focalisé sur la personne de Jésus, ça t'amène par la suite à faire des bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres de Noël, j'aimerais te proposer que c'est de focaliser à ton tour sur les autres personnes autour de toi. Si tu focalises sur la personne de Jésus, que tu manges avec lui, que tu passes du temps dans sa présence en priant, en lisant sa parole, en pensant à lui à travers toutes tes festivités, il va t'amener par la suite à focaliser sur les personnes autour de toi parce que le christianisme, c'est une question de relation, relation avec Dieu et relation avec les autres. Il va t'amener à faire des bonnes œuvres en aimant ton prochain, en faisant preuve d'hospitalité envers les autres, en prenant le temps d'appeler les gens qui sont seuls autour de toi, isolés par la pandémie, peut-être avec les nouvelles sanctions, des gens vont préférer rester à la maison. Pensons à ces personnes-là. Appelons-les, prenons un temps pour apporter un cadeau à la porte. En prenant du temps de qualité pour manger en famille et discuter, pas juste préparer des plats à l'infini sans vraiment être présent pour les gens qui t'attendent à ta table. Dans ce temps de Noël, est-ce que tu es focalisé sur la tâche ou sur la personne? Est-ce que tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses comme martre? Ou est-ce que tu choisis la meilleure part auprès de Jésus? Est-ce que tu t'agites pour faire les courses, pour cuisiner? Et je comprends, c'est vraiment une période. On a plus de choses, on a plus d'activités, c'est normal. Est-ce que tu t'inquiètes à cause de la COVID, de tes conflits familiaux, des conflits dans la société à cause du vaccin, à cause du passeport vaccinal? Mais tellement que tu en oublies Jésus, qui est le centre de cette fête. Et ça peut même être des choses positives. Et moi, je veux faire attention personnellement à ça parce que j'aime profiter de la vie. Vous savez, j'aime bien manger, j'aime ça, et écouter des films en pyjama. Mais attention, si pour toi, Noël, c'est juste des vacances qui te permettent justement de manger, d'écouter des films, sache qu'on oublie l'essentiel, le vrai repos. Le vrai repos se trouve en Jésus. Et tout ça, c'est des bonnes choses. Je ne suis pas en train de dire qu'on devrait mettre ça de côté. Non, 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 pitié, non. Le repos, la bonne nourriture, les rencontres en famille, mais la meilleure part, la seule qui est nécessaire et éternelle, c'est Jésus. Et si tu as ce fondement-là, tout le reste, c'est du crémage. Tout le reste, c'est juste quelque chose de merveilleux qu'on peut déguster, qu'on peut apprécier. Mais si tu fais de Jésus la meilleure part de ta vie, tu peux traverser n'importe quelle tempête. Parce que cette part-là ne pourra jamais t'être enlevée. Et quand on regarde le monde, quand on voit aller les nouvelles en ce moment, c'est un petit peu effrayant. On voit changement climatique. Dans quelques années, qui sait, peut-être famine dans le monde. Mais si Jésus est ta meilleure part, tu vas pouvoir traverser n'importe quoi. Tu vas pouvoir traverser n'importe quoi. Et merci Seigneur pour le café. Merci Seigneur pour les gens qu'on peut côtoyer. Merci Seigneur pour un pays en paix. Mais si ce n'est plus le cas, est-ce que Jésus est ta meilleure part? Est-ce que Jésus est seulement le petit Jésus, un petit bébé en pâte à sel au centre de ta crèche, en dessous de ton sapin? Ou est-ce que c'est une personne bien vivante avec qui tu as une relation? Et moi, je me suis rendu compte, quand je fais mon sapin, OK, ça nous prend comme une soirée à faire, c'est quand même assez long, on a une belle crèche aussi, ça prend du temps, mais on dirait, en tout cas, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais on dirait qu'on ne le voit plus à un moment donné, le sapin, on prend même pas le temps de regarder nos beaux ornements. Tu sais, quand on les sort, on les regarde, mais après, on ne le voit plus, le sapin. Bon, il est clair, mais on ne le voit plus. On passe à côté sans le voir. Et la période des fêtes est tellement agitée, j'aimerais te conseiller de dire, Passe pas à côté de Jésus, passe pas à côté de la crèche sans le voir. Passe pas à côté de ce moment-là, de cette célébration de Jésus sans vraiment voir Jésus et prendre du temps avec lui. Ce Noël soit focalisé sur la personne au lieu de la tâche, sur la personne de Jésus et sur les personnes autour de toi. Si tu sens que tu t'inquiètes et que tu t'agites pendant la période de Noël, c'est normal. Mais arrête-toi et va aux pieds de Jésus. Et dans sa présence, tu vas trouver la force, la joie, la paix comme les anges ont annoncé à la naissance de Jésus. Amen. Mon deuxième point pour ce soir, c'est que non seulement tu es appelé à manger avec la personne de Jésus, à prendre du temps dans sa présence, mais tu es aussi appelé à manger le pain de vie. Parce que Jésus se décrit non seulement comme celui qui veut manger avec nous, mais il se décrit comme étant la nourriture, le pain de vie. C'est ce que Jésus va dire à une foule juive en Jean 6, 32 à 35. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et moi, je voyais une pancarte au centre d'achat aujourd'hui, Petit papa du ciel, quand tu descendras du ciel, j'étais comme... Non, c'est Jésus qui est descendu du ciel. Et lui dire alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Tu nous annonces une nourriture, ben on en veut. Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Est-ce que tu as faim et tu as soif spirituellement ce soir? As-tu faim et soif d'une vie d'amour? De paix, de joie, de vraie liberté, libérée de ton passé, libérée de ton péché, des choses que tu n'es pas capable de te débarrasser. C'est en Jésus que tu vas trouver la vraie vie. C'est lui seul qui peut combler ton cœur, ton être intérieur. Mais voici comment les Juifs, eux, ont réagi face à ce que Jésus disait. Oui, on veut de ta nourriture. Ben, c'est moi la nourriture. Ah ouais, OK. Jean 6, 41, 42, les Juifs murmurait à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Comme les Juifs ici, qui voient Jésus juste comme le fils, le petit gars du village de Nazareth, le petit-fils de Joseph et Marie, est-ce que Jésus est rendu tellement familier pour toi que c'est juste le petit Jésus de la crèche sous le sapin, entouré de son père et sa mère terrestre. Rappelle-toi que Jésus, c'est pas seulement celui qui mange avec toi. Et c'est le cas, mais c'est pas seulement ça dans une relation de proximité, mais c'est aussi le Fils de Dieu descendu du ciel, le pain de vie, la nourriture pour ton âme. Et c'est ça le paradoxe de Noël, c'est de comprendre premièrement la proximité de Jésus, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu comme un petit bébé et qui veut manger aujourd'hui à ta table. Mais Noël, c'est aussi la majesté, non seulement la proximité, mais la majesté du pain de vie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, Emmanuel, Dieu avec nous. Et pour répondre aux Juifs qui étaient sceptiques en entendant Jésus parler comme ça, Jésus va répéter ce qu'il a déjà dit en Jean 6, 47, 51, juste dans la suite du passage. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de la vie, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Ici, Jésus parle de son corps qu'il va offrir pour l'humanité en mourant à la croix, après avoir vécu une vie parfaite pour vaincre le péché, pour vaincre la mort, et pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, une vie en abondance ici sur terre, mais aussi la vie éternelle, de ne jamais connaître la mort, de pouvoir être dans sa présence pour l'éternité. Et alors que je me questionnais à savoir si le message de la croix était comme approprié pour un dimanche de Noël, c'est spécial, j'ai trouvé la confirmation dans mon plan de lecture du calendrier de l'Avent, tout juste avant hier, donc du 1er au 24 une petite pensée sur la naissance de Jésus, etc. Et hier, je lis ceci, et puis ça m'a juste confirmé, c'est bon, Élise, vas-y avec ce message-là. Matthieu 2, 9 à 11. Ça met en scène les mages venus de l'Orient pour adorer Jésus. Vous allez voir où je veux en venir. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Traditionnellement, ces trois cadeaux-là vont devenir les symboles de l'identité de Christ. L'or pour la royauté, l'encens pour sa divinité, parce que c'est ce qu'on faisait brûler, par exemple, dans les temples, et la myrrhe, c'est ce qu'on utilisait, entre autres, pour embaumer les morts. C'est un beau cadeau de shower, quand même, hein? On arrive avec avec un cercueil, genre, là. Mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que dans Jean, c'est de la myrrhe que Nicodème et Joseph, un disciple de Jésus, vont utiliser pour embaumer le corps de Jésus. C'est pas un hasard. Dès sa naissance, sa royauté, sa divinité et sa mort ont été annoncées. Et l'auteur, dans mon plan de lecture, a dit ceci: ce petit bébé, vénéré par les mages, est venu au monde pour mourir sur la croix à cause des péchés du monde. On a oint son corps avec des épices et de la myrrhe avant de l'enterrer. La myrrhe préfigurait sa mort. Beaucoup de gens aiment l'image du petit Jésus, tout comme ils aiment Noël, mais ils n'aiment pas réfléchir à sa mort sur une croix. Par contre, si nous voulons vraiment trouver la vérité, nous devons accepter toute la vérité. Pour ces sages, toute la vérité se trouvait là, dans cette crèche. Ce Dieu roi qui allait mourir pour que nous puissions naître à nouveau. C'est beau, hein? Je vais inviter les musiciens à se joindre à moi. Et Gaëtan, tu peux. Et ce soir, dans ce dimanche, ben c'est dimanche, c'est samedi de Noël, on va prendre la communion. On va prendre la communion avec cette belle série sur la table de Noël. On ne trouvait pas un meilleur moyen de clore cette série finalement. Et la communion qu'on va prendre dans quelques instants, le pain et le vin, c'est du jus de raisin, là, donc le pain et le vin qui représentent le corps et le sang de Jésus offert pour nous. Ça doit être pris avec reconnaissance et sérieux. Mais c'est pas obligé d'être lourd. Les anges, les rois mages arrivent avec joie. Ils arrivent avec leurs cadeaux, avec joie. Tout le monde est joyeux pour l'annonce de la naissance de Jésus. On peut être joyeux parce que Jésus est ressuscité. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il a vaincu la mort. Et il nous a fait le plus beau cadeau, le cadeau de sa vie. C'est ça le plus beau cadeau de Noël. C'est ce qu'on fête à Noël. Et Jésus est avec nous ce soir. Jésus est avec nous ce soir par son esprit, parce qu'il est vivant. Il est avec nous à la table. Ce soir, il veut qu'on mange avec lui. Okay? Il veut qu'on se joigne à lui, à sa table. Et il veut aussi qu'on mange le pain de vie, qu'on mange son corps en se rappelant qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Et si tu crois ces paroles, le message de l'Évangile, t'es invité à la table du roi ce soir.